Donc je vous propose un peu ce matin de réviser un peu, c'est bon de temps en temps de repartir sur des choses claires, saines, précises, sur de bonnes bases quant à notre présence et à notre engagement dans notre Église que nous fréquentons que depuis quelques semaines ou depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je parle en plus sous le couvert d'un représentant national de la commission de service et de référence, donc il ne faut pas, en l'occurrence David, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Si je vous dis église de professants, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui ne répondez pas, levez la main, celui qui ou celle qui connaît vraiment la signification de église de professants. Pierre, il n'y a que Pierre Alaki dans cette assemblée. David, je suis rassuré. Brigitte, allez, quand même. Eric. Yves, tu sais bien ce que c'est qu'une église de professants, quand même, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, église de professants? Nasser? Pas franchement. C'est plus professeur, pas prophétie, d'accord? Église de professants, ça veut dire que je me tiens là devant vous, elle est constituée de membres, ces églises sont constituées de membres qui sont capables, en toute conscience, de professer leur foi. Et ceci en opposition aux églises de multitude, d'accord? Ou vous faites partie de la maison, vous accomplissez tous les rites, ou les parents accomplissent les rites nécessaires pour vous intégrer dans ces églises de masse. Nous sommes des églises de professants. Ça veut dire que j'ai rien inventé, hein, je vous lis quelques définitions Wikipédia. Les églises évangéliques font partie donc du christianisme évangélique issu bien sûr de la réforme protestante initié par Luther. Les églises évangéliques sont donc des églises de professants en opposition aux églises de multitude. Donc, seuls les membres des convertis baptisés par immersion sur confession personnelle et publique de leur foi. Voilà. C'est là aussi un second point commun de toutes ces églises. C'est une des caractéristiques. On ne baptise que les adultes, on ne baptise pas les enfants. Vous pourrez aussi entendre, faisons partie de ce qu'on appelle des églises anabaptistes. J'en suis un témoin, ça veut dire que moi j'ai été baptisé enfant dans le catholicisme, et puis à 30 ans, j'ai décidé de repasser par les eaux du baptême, après avoir professé ma foi. Donc nous faisons partie des églises de professants. C'est important au niveau de votre identité, parce qu'on parle d'église, mais au niveau église, c'est large. Hein. Donc, les évangéliques, nous faisons partie des églises de professants, c'est-à-dire que vous êtes capable de professer, de témoigner que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, d'accord? Et par obéissance, voilà, on y va. Alors, j'ai prononcé aussi un mot tout à l'heure dans ce texte, et puis Nasser en a parlé un petit peu, et ce que je vais essayer de réviser avec vous ce matin, c'est ce que l'on appelle une des caractéristiques aussi des membres de ces églises, c'est que nous sommes enfants de Dieu, et on dit souvent nous sommes nés de nouveau. Donc on va essayer de reparler un peu de la nouvelle naissance, ce que les Américains ou les journalistes d'une manière négative disent les born again, n'est-ce pas? Né de nouveau en anglais, c'est ce que ça veut dire. N'ayons pas peur des mots parce que c'est ce que vous êtes et c'est ce que nous sommes. Et c'est le fondamental, le rocher sur lequel notre foi est appuyée. Elle n'est pas appuyée sur une connaissance, un mysticisme quelconque. Elle est constituée sur cette base extraordinaire. Je vais lire avec vous ce fameux chapitre sur lequel il y a un dialogue un peu, pour parler du jour aujourd'hui, un dialogue de surréaliste, un dialogue de ouf, entre, révision, Jean chapitre 3, c'est un dialogue entre Nicodème et Jésus-Christ. N'ayez pas peur, c'est les vacances, vous pouvez parler, on va pas vous noter. Aidez-moi. Alors, je vais vite lire. Donc Jean, chapitre 3, on va commencer à partir du verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, donc un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait, un érudit, qui connaissait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui vint à lui, donc auprès de Jésus, de nuit, donc en lousdé, on va dire aujourd'hui, auprès de Jésus, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. » Donc cet homme reconnaissait que ce Jésus-Christ était quand même un peu un envoyé un peu spécial, hein, venu de Dieu. « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La clé de la foi, je dirais, la clé du camion, la clé de démarrage de la vie, elle est là. C'est pas n'importe qui parle, ni un prophète. Jésus dit, si quelqu'un ne naît du verbe naître de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si vous croyez à l'inspiration des Écritures, faut pas bypasser ça, c'est donc fondamental, le point de départ. Si vous n'êtes pas capable de professer ceci dans votre vie, ça veut dire que quelque chose, il y a un rendez-vous qui a été manqué. Alors, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Point d'interrogation. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît, naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, il donne une explication, il dit non, c'est pas la peine de rentrer de nouveau dans le ventre de ta maman, la pauvre, entre guillemets. Mais il décrit un peu plus, il décline la nouvelle naissance, il parle donc ici d'esprit, n'est-ce pas? Et il dit un peu plus loin, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc on peut tout simplement, chose simple, concrète, il y a une naissance physique, on est tous, enfin, à moins que quelqu'un soit sorti d'une éprouvette de 0 à 9 mois, mais a priori on est tous issus du ventre de notre maman, n'est-ce pas, physiquement. Et donc après, il y a cette nouvelle naissance. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc c'est quand même une nécessité, il faut. C'est pas une option, c'est pas peut-être, tu verras un jour, éventuellement, il faut que vous, que tu naisses de nouveau. Ne t'étonne pas, donc, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ce verset, il n'est pas simple, il n'est pas évident un peu à comprendre. Il y a cette métaphore avec le vent. C'est vrai que le vent, avec nos yeux, s'il n'y a rien, si vous êtes au milieu d'un stade, s'il n'y a pas d'arbre autour, ni quoi que ce soit, le vent, il se met à souffler, vous voyez pas le vent. Par contre, vous allez le ressentir. Vous allez voir ses effets. S'il y a un arbre ou des choses comme ça, cette fois-ci, vous allez le voir bouger. Donc, une naissance, une nouvelle naissance faite par l'Esprit, elle va se voir par les effets qu'elle va produire, que l'Esprit Saint va produire dans vos vies. C'est la même chose. D'où cette métaphore avec le vent. Le vent, il souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne connais d'où il vient ni où il va. Nicodème lui répondit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. la Bible, elle est pleine de paradoxes. À la fois, elle nous demande, nous sommes exhortés à connaître la parole de Dieu, à en être imprégnés complètement, mais elle nous demande aussi de nous approcher du Seigneur comme des enfants, comme par la foi. S'approcher du Seigneur, c'est par définition faire un pas de foi et s'approcher de quelque chose qu'on ne voit pas. Et un jour, beaucoup dans cette salle, un jour, ont décidé, par la foi, de dire, ben oui, je comprends pas tout, mais je, par la foi, j'accepte le sacrifice de Christ. Et à ce moment-là, le Seigneur, voyant votre foi, voyant la sincérité de votre cœur, va répandre en vous son Esprit Saint. Notre frère, c'est extraordinaire. On n'a pas préparé l'introduction ensemble. Il a parlé d'un texte, tout à l'heure, de Luc, avec les deux brigands qui sont sur la croix. Sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé pour... Tu peux les relire, là, parce que j'ai pas les versets, notamment donc ce fameux dialogue. Vas-y, ils sont courts, ces quatre versets, là.
L'un des malfaiteurs crucifié l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. »
Vas-y.
Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui supplies la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Je te le dis aujourd'hui en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous croyez sincèrement que ce brigand-là, il a eu le temps de démontrer par des actes pratiques, physiques? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça que Jésus-Christ lui a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis » Parce que Christ, qu'est-ce qu'il a vu dans cet homme? Il a regardé son cœur. Il connaît en toute transparence le cœur de chacun. Et il s'est rendu compte que cet homme-là, en toute sincérité, il a placé toute sa foi dans le Seigneur. Et le Seigneur a vu ça. Et lui répond, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le point de départ, frères et sœurs. Moi, comment dire? Quand je me suis converti, moi, j'ai eu des images un peu comme ça, comme si j'étais sur une gare, vous voyez, le train à Perrache. Et puis le train s'arrête, les portes s'ouvrent, et puis le Seigneur m'accueille, dit « Monte dans le train, et je t'emmène avec moi dans le paradis. » Mes amis, et par la foi, j'ai décidé de... C'est la seule action dont nous sommes redevables, c'est de dire un jour, par la foi, « Je suis Jésus-Christ. » Et à partir de ce moment-là, Christ... Le Père, le Saint-Esprit, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Vous naissez de nouveau. Tu nais de nouveau. Nous ne sommes plus les mêmes créatures. Nous changeons d'identité. C'est fini. Quand le Christ a dit sur la croix, quand il a baissé la tête, il a dit « Tout est accompli » parce que celui qui s'approche du Christ et qui, par la foi, dit « Oui, je peux rien faire sans toi, et je me confie pleinement en toi, comme un petit, comme mon petit-fils ou vos petits-enfants se jettent dans les bras de leur mère. » Ils n'ont pas d'autre choix, ils y vont par amour, il n'y a aucune arrière-pensée. Donc, le point de départ, cette nouvelle naissance, frères et sœurs, amis, elle est fondamentale. Si tu passes à côté... Si tu connais ta Bible par cœur, mille fois mieux que moi, mais si tu as loupé ce rendez-vous au pied de la croix, au moment où tu vas passer devant le Seigneur, personne ne prendra ta place, et notre Dieu regardera ton cœur comme il a regardé le brigand, et il y en a un, il lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui, et l'autre, il est resté sur la croix. D'accord ? Pourquoi c'est peut-être simple, basique, mais c'est fondamentale. On a la chance aujourd'hui d'être dans un pays libre où on peut annoncer ce message de l'Évangile qui est simple, mais qui est tellement compliqué pour beaucoup, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas rallonger, on a promis qu'on ne finissait pas les cultes tard. Alors, peut-on naître de nouveau ? On vient de le lire, pour moi, c'est évident. Je refais une toute petite parenthèse, ça veut dire que même dans la chrétienté, nommée chrétienté humaine, on s'éloigne un peu des Écritures et c'est pas forcément, on va dire oui, bon, c'est un peu mystique, c'est un peu philosophique, tu as ta voix, il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver. Nous nous appelons évangéliques, pourquoi ? Parce que nous sommes ancré sur les évangiles, seul, de A jusqu'à Z, du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse ou de Revelation. Un verset qui m'a marqué quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, je commence souvent à la fin d'un bouquin, moi. C'est l'avant-dernier, celui qui rajoute ou celui qui retranche quelque chose à une des paroles qui est dans ce livre, s'expose au jugement décrit dans ce livre. Donc à partir de ce moment-là, moi aussi je suis un peu carré, cadré, un peu scientifique de formation, ben, il faut bien que ça commence par quelque chose et que ça finisse par quelque chose, parce que sinon, si on dit « mais oui peut-être, oui mais » à ce moment-là, tout est susceptible et potentiellement ouvert à toute dérive humaine, rajout, retranchement. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, pour nous, c'est la vérité complète. Alors, un autre titre en forme de clin d'œil. Avant d'être enfant de Dieu, avant d'être, il faut naître. On est bien d'accord. De la même manière que physiquement, avant d'être, il y a eu la naissance. On est bien d'accord. Eh bien, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître avant d'être. Une petite référence pour dans l'Ancien Testament. En introduction au texte que je vais vous lire, ça veut dire quoi la conclusion ? C'est que sans cette nouvelle naissance, l'homme ne peut absolument rien faire par ses pratiques, par ses actions de méritoire vis-à-vis de Dieu. C'est pas possible. Et pour moi, pour m'aider ou pour vous aider à comprendre ça, essayez de vous imaginer un peu la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Et quand on prend un peu, c'est difficile, mais intellectuellement, la dimension de la sainteté de Dieu, on comprend que c'est impossible de s'approcher. Des exemples dans la parole de Dieu nous disent que s'approcher de Dieu, c'est mourir. Hein, des exemples dans l'arche ou des choses comme ça, Moïse qui monte sur la montagne. Donc ça veut dire que tu ne peux pas t'approcher de Dieu par tes propres moyens. C'est ce que ça veut dire. Dieu dit que nous sommes incapables, par nature, de nous approcher de Dieu. Ézéchiel 36 et versets 22 à 27 disent, donc il s'adresse à la maison d'Israël, mais c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, c'est Dieu qui parle à travers son prophète, que vous avez profané parmi les nations et vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Les Anglais disent « Take care, God is in charge ». Ça veut dire « Ne t'affole pas trop, Dieu est à la manœuvre ». Dans ces versets que je viens de lire du Nouveau Testament, Dieu dit « je ». Il suffit de le laisser rentrer. Une description de cette nouvelle naissance. C'est une réalité qui est intellectuellement maintenant assez simple à comprendre. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu sans que ce miracle extraordinaire de la nouvelle naissance ne se soit opéré dans ta vie. Alors, avant d'être, il faut naître. Alors comment ? Je relis un peu mes notes là. Alors il y a plein d'explications, mais quand même, qu'est-ce qu'une naissance ? Une naissance, c'est une vie qui sort d'une autre vie, on est bien d'accord. Un être qui sort d'un autre être. Métaphore avec notre naissance physique. Mais ce corps, animé par un esprit immortel, par naissance, ça aussi, ça aide à comprendre la notion de péché. Parce qu'on peut se dire, ma foi, je suis pas plus mal, hein, moi j'étais le premier, tout va bien. Mais par définition, par naissance, je suis, tu es, nous sommes pécheurs. Le mot interdit du 21e siècle, n'est-ce pas ? Voilà. Ça veut dire quoi ? Que par naissance, notre âme est séparée, révoltée contre Dieu, par définition. Oui, l'âme humaine est révoltée contre son Créateur. Et si pendant son séjour sur terre, cette réconciliation ne se fait pas, l'âme reste sous le poids, la tyrannie du péché. Et après la mort, il y a cette séparation éternelle avec Dieu, ce que l'on appelle, et l'apostrophe, l'enfer. Voilà, on va appeler un chat, hein. Donc voilà. Donc l'homme, il a toute cette période terrestre pour se rapprocher et se réconcilier avec son Dieu. Cette nouvelle naissance, elle est faite. Alors il y a une phrase, David nous en parlait, nous a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant des expressions humaines qui sont tirées de la parole de Dieu, n'est-ce pas ? En voilà une, c'était toi ou quelqu'un ? Oui. Si, c'était toi. Voilà. Alors, nouvelle naissance, c'est une opération du Saint-Esprit. Hein ? Tain, ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Hein ? C'est une expression qu'on dit souvent. La nouvelle naissance se fait par l'opération du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il faut en être persuadé. C'est une réalité, on n'en parle pas. Pourtant, chaque enfant de Dieu, il est né de nouveau, il est scellé, 100% de potentialité du Saint-Esprit. C'est une réalité. On ne va pas aborder ça maintenant, mais la réalité de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sans cet Esprit Saint en nous, en moi, en toi, mon frère, ma sœur, tu es susceptible de rien faire qui ne puisse plaire à Dieu. Alors, cet Esprit Saint, on l'a vu tout à l'heure, mystérieux, libre comme le vent, l'Esprit souple où il veut, il est seul capable de nous pénétrer, de nous saisir et de réaliser en nous cette chose extraordinaire. Frères et sœurs, si depuis que vous êtes nés de nouveau, de nombreuses années de conversion, celles qui sont autour de vous trouvent que vous avez un peu changé, que votre caractère il s'est un peu assoupli, que vous êtes mieux, que votre papa ou votre maman vous disent « Ben dis donc, effectivement, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. » Mon frère, ma sœur, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Dieu, l'Esprit de Dieu, en toi, agit. Quand tu lis ta parole, qui est un miroir extraordinaire, associé à l'Esprit Saint que tu as en toi, c'est ça qui va doucement faire plier ton caractère, le potier, hein, celui qui te... tout doucement. C'est pas simple, hein. On dit souvent, c'est facile, il n'y a qu'à le laisser faire. Voilà. Mais pour revenir au sens de la vie, c'est que c'est l'Esprit de Dieu que nous avons tous en chacun de nous, qui nous fait avancer, qui, pour un tel, va dire, ben voilà, je vais engager toute ma vie pour le Seigneur, pour un autre, eh ben, je vais travailler, je vais faire ci, je vais me mettre au service. Simplement, pourquoi ? Pour dire merci au Seigneur, et comme simple ouvrier, pouvoir avancer et dire, ben voilà, merci, je ne sais pas comment te le dire, mais bon, j'agis, je te remercie Seigneur. La foi, nos actions prennent source dans ces choses-là. Si tout le reste, c'est vain. L'Esprit Saint nous aide à modifier nos actions. Mais celui qui a fait de nous de nouvelles créatures, c'est Dieu. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu. Frère de Jésus-Christ, sœur de Jésus-Christ, ayant part à l'héritage du royaume. Nous sommes déjà dans le royaume, frères et sœurs. Et ces choses, il faut qu'elles soient ancrées dans nos vies, parce que quand ça souffle, quand la tempête bouge un peu, ce sont ces fondamentaux enracinés dans nos cœurs qui font que on reste ferme, on avance. On dit aussi souvent ce symbole du... On a parlé, je ne veux pas faire un message sur le baptême, mais ce symbole de l'immersion et de ressortir de l'eau, c'est quoi ? C'est la mort à soi-même, n'est-ce pas ? Et le symbole de la résurrection. Et je suis né de nouveau... l'ancien Guy ou l'ancien Pierre, Paul ou Jean est mort. Maintenant, c'est une nouvelle créature où l'Esprit Saint, dans lequel l'Esprit Saint habite. Jésus disait lui-même dans Jean 12, 24, « Si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » N'est-ce pas ? Il y a une autre petite métaphore. J'ai lu, vous prenez un grain de blé, vous le mettez dans une boîte au noir, au sec, bien caché, à l'abri de la lumière, de l'humidité, tout ce que vous voulez. Vous revenez un an après, il est toujours là, impeccable, un peu sec, mais bon, rien n'a bougé. Tu prends ce même grain de blé, tu le mets en terre, il disparaît. Voilà la métaphore. Il faut que cette nouvelle naissance corresponde à une mort du vieil individu. Il faut matérialiser ces choses-là, il faut les visualiser. Notre identité, elle est maintenant dans cette nouvelle naissance, on est des nouveaux individus. La nouvelle naissance est une vie qui est possible grâce à la mort d'un autre, bien sûr, grâce à la mort aussi de Jésus. Parce que lui, il a tout payé. Tout ce que je viens de vous décrire jusqu'à présent n'est possible que grâce à la mort du Christ. Si nous recevons par la foi Jésus, si nous croyons en lui, il accomplit lui-même cette chose, cette œuvre extraordinaire dans nos vies. J'ai sauté un peu plus loin. Si nous recevons donc le Christ, alors commence cette vie nouvelle en Jésus-Christ, dans la paix avec Dieu, qui va manifester dans notre corps mortel les fruits de l'Esprit, ou avec des hauts, avec des bas. Hein. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve pavé de roses, n'est-ce pas ? Mais les fruits de l'Esprit sont là. Galates 5, 22, 23. Alors commence une vie nouvelle en Jésus-Christ, avec, donc dans la paix avec Dieu, qui va se manifester par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Frères et sœurs, qui sait qui va te permettre de supporter tout au long de l'année ton frère, ta sœur qui est assis aux côtés du banc, qui est là, qui de temps en temps t'agace un peu, ou ton prochain qui est ailleurs, et ainsi de suite. C'est pas tes propres forces, c'est pas ton caractère, parce que tu es gentil ou quoi que ce soit, c'est parce que les fruits de l'esprit dans ta vie vont créer la maîtrise de soi, la douceur, la bienveillance, la patience, la bonté, l'amour, la joie et la paix. Tout ça ne vient pas de toi, ne vient pas de moi. Tout ça vient de Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui nous incombe, mais on s'en fiche, peu importe. L'important, c'est d'être dans le train. L'important, c'est d'être dans le train. Les fruits de l'esprit, encore une fois, du brigand sur la croix, ça n'a pas duré longtemps. Mais ô combien c'est important. Acceptant Jésus-Christ, le croyant se trouve baptisé dans sa mort, dont l'eau est le symbole. Mais comme Christ est ressuscité des morts, le croyant en sortant de l'eau témoigne que, désormais, par une foi vivante, par la puissance du Saint-Esprit, il marchera en nouveauté de vie. Ainsi, Jésus-Christ seul, par sa mort et sa résurrection, offre à l'homme et à la femme la possibilité de mourir ici-bas à sa vie de péché et de commencer à vivre dès maintenant dans son corps mortel une vie éternelle. Amen.